Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Tati Mampoukou. Okapi.
Bienvenue dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Que faut-il faire pour régénérer la forêt de Mayombe au Congo central? Nous en parlons avec le professeur Michel Mbumba Badi. Il est docteur en sciences agronomiques, spécialiste en agroforesterie. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-6094. Appelez-nous. Nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Envoyez-nous vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Services dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente ce numéro sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Marcel Ngombo coordonne et réalise cette émission et Dieudonné Nyangassa s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de cette seconde partie d'Okapi Service.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
Okapi. Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Okapi Service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. La forêt du Mayombe est une partie importante des forêts du bassin du Congo, un des principaux poumons écologiques du monde selon les spécialistes. Depuis des décennies, la forêt de Mayombe se dégrade rapidement à cause des feux allumés par les agriculteurs et les agricultrices à chaque campagne agricole. Les chasseurs de la région recourent également au fait de brousse, surtout en saison sèche, pour attraper les gibiers. Et pourtant, l'agriculture surbrûlée et les feux de brousse contribuent à la dégradation de la forêt de Mayombe avec des conséquences non négligeable sur les changements climatiques selon les écologistes. Que faut-il faire pour régénérer la forêt de Mayombe au Congo central et à Brazzaville, parce que la forêt couvre les deux pays? Comment lutter contre l'agriculture surbrûlée et la pratique des feux de brousse qui contribuent à la dégradation de la forêt de Mayombe? Quelles sont les bonnes pratiques agricoles à encourager pour éviter la dégradation des sols dans cette partie de la RDC? Nous en parlons avec monsieur Michel Mbumba. Il est docteur en sciences agronomiques et spécialité au fait en agroforesterie. Merci d'avoir été avec nous. D'entrée de jeu, professeur, pouvez-vous nous présenter la forêt de Mayombe?
Merci pour la parole, monsieur Tati et Kapoukou.
La forêt Tati de Mayombe,
Mapoukou, exactement. Je m'excuse.
Voilà.
La forêt de Mayombe, c'est pas seulement la RDC et puis le Congo en face. C'est plutôt quatre pays qui intègrent, au fait, qui utilisent cette forêt.
Ah, d'accord.
Il y a l'Angola, vers l'enclave de Cabinda, la RDC, le Congo Brazzaville ou tout court la République du Congo, ainsi que le Gabon. Alors, la forêt du Mayombe est une forêt qui a une superficie d'environ 36 000 km², donc environ 3 600 000 hectares.
Et dans quel état elle est aujourd'hui, cette forêt de Mayombe, professeur?
La forêt de Mayombe est vraiment en plein recul. Il y a une forte dégradation et puis déforestation. C'est dû à la croissance démographique ainsi que la pauvreté des ménages dans ces milieux. Et voilà pourquoi, en fait, les gens qui vivent dans ces forêts ou encore dans cette forêt, puisque il y a plusieurs forêts, si on parle des pays, mais il y a seulement une seule forêt de Mayombe. Alors, les riverains ont comme ressource cette forêt. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas aller au-delà de ces ressources pour leurs besoins de base. Ils deviennent ces ressources là-bas. Et si bien que, avec la croissance démographique, il y a une forte, il y a une surexploitation de cette forêt, et ce qui amène à la déforestation ou encore à la dégradation ou à la perte de la biodiversité au niveau de cette contrée.
Et vous avez dit au fait à l'entrée, à l'introduction, que la forêt de Mayombe se retrouve dans quatre pays de la région. Il y a la RDC, l'Angola, le Congo-Brazzaville et le Gabon. Parlez-nous un peu des pratiques culturelles qui sont réalisées dans cette forêt.
Bon, généralement, dans ces quatre pays, hein, c'est beaucoup plus l'agriculture itinérante subrilie qui prédomine. Hein. C'est vrai, il y a plusieurs autres activités agricoles comme l'agriculture biologique, mais ce n'est pas vraiment en pleine application. C'est beaucoup plus au niveau des fermes pilotes ou encore des centres de recherche. Mais pour les populations, c'est beaucoup plus cette activité qu'on appelle l'agriculture itinérante sur Brilly. Ça veut dire quoi? L'agriculture itinérante sur Brilly, c'est une ou encore un mode de système agricole dans lequel l'agriculteur vient défricher, il brûle les débris, hein, donc tout ce qui est feuilles ou encore le bois lors, après l'abattage, il plante et après maintenant il plante pour une période relativement courte. Après maintenant c'est la jachère. Après la jachère, il va ailleurs et voilà pourquoi on parle d'itinérance. Il quitte ces milieux pour aller ailleurs et tout en laissant cette partie hein, donc exploitée en repos, ce qu'on appelle la jachère.
Mais est-ce que cette agriculture a des incidences sur la qualité du sol à la longue?
Effectivement, il y a beaucoup d'incidences par le fait que lorsqu'on brûle, il y a les CO2 qui se dégagent. Mais je te dis, il faut des analyses aussi hein, pour voir quelle est la quantité de CO2 qui se dégage, peut amplifier hein, bon, ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Puisque il n'y a pas de vie aussi sans CO2. Les CO2, c'est ce que la plante a besoin pour croître. Et la plante, au fait, avec les systèmes de photosynthèse, a besoin de CO2 avec les nutriments du sol, donc mélangés avec de l'eau. Et ce qui fait que ça puisse produire, ce qu'on appelle les hydrates de carbone. Et non seulement les hydrates de carbone, il y a aussi l'oxygène qui se dégage. Voilà pourquoi on parle souvent de poumons, hein, donc enfin, non, ce sont pas des forêts, donc pas des poumons écologiques. Alors, l'homme aussi a besoin de cet oxygène. Vous voyez que il y a pas seulement l'effet négatif de gaz carbonique, mais on voit aussi hein, l'effet positif. Mais lorsqu'il y a amplification de ces gaz à effet de serre, c'est là où ça pose problème.
Oui, mais lorsqu'une communauté est habituée à faire ça, par exemple, à chaque mois de juin de l'année, au début de la saison agricole A, donc c'est beaucoup de personnes qui le font au même moment, et puis c'est là des incidences sur la qualité des sols et sur l'environnement.
Vous avez raison, M. Stati, mais je pense qu'il faut voir d'abord le contexte de notre pays, hein, ou encore de tous ces quatre pays. Et d'abord, la pauvreté est extrême. Donc on ne peut pas directement empêcher les gens sur une pratique qu'ils ont déjà l'habitude de faire depuis trop longtemps, sans pour autant leur montrer comment
les alternatives.
Ouais. Et moi, je pense que pour le moment, il faut même pas parler des alternatives, il faut parler peut-être la complémentarité. Donc, des activités complémentaires. Hein. Donc, les gens peuvent, au fur et à mesure, de s'adapter à des nouvelles pratiques durables. Mais on ne peut pas les pousser de ton parce que c'est difficile. Moi, j'ai été sur le terrain beaucoup de fois et vous voyez que les gens sont déjà habitués avec ce genre de pratiques. Mais comment maintenant les pousser maintenant vers des pratiques plus durables? Il faut un temps.
Oui, pensez-vous que l'agroforesterie est l'une des méthodes qui peuvent servir au fait ces communautés-là?
Effectivement, l'agroforesterie, hein, donc ça a été initié depuis très longtemps. C'est une pratique ancienne, mais d'une nouvelle science, hein, puisque l'agroforesterie est née vers les années 1970 ou encore 70. Mais c'est une pratique qui date de très longtemps. Mmh. Nous, ici, dans nos cultures, beaucoup de gens le font, même au village. Lorsqu'il y a intégration des liens pérennes, quand on parle des liens pérennes, on voit les arbres, les arbustes, ou encore les lianes, ou les bambous, les palmiers à huile. Lorsqu'on l'intègre avec les activités agricoles, donc l'élevage et puis les cultures, nous, c'est ce qui fait parler de l'agroforesterie. Mmh. L'agroforesterie, c'est un mode de gestion des terres durables qui associe les cultures annuelles, les arbres ou encore les liens pérennes, ainsi que les élevages.
Oui, professeur, dans cette émission, nous donnons également la parole à la population. Ils sont nombreux, les auditeurs qui attendent d'appeler, d'intervenir pour poser des questions, des recadrages, d'éclaircissements. Je reviens à vous, hein, il est temps pour nous de retourner au standard pour donner la parole aux auditeurs qui sont déjà en ligne. Que faut-il faire, hein, pour régénérer la forêt de Mayombe? Nous en parlons dans cette deuxième partie d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081 890 63 94 par SMS, nous attendons vos questions au numéro 081 50 081 711 50 01. Sur internet, vos questions sont bienvenues au courriel dénommé service@radiocapi.net. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service.
Voilà Milambo pour Belongo.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapi Sport est un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Le premier auditeur nous appelle depuis la ville de Lubumbashi, il s'appelle Charles, bonjour.
Bonjour monsieur Tati, bonjour aussi au professeur.
À vous la parole monsieur Charles, nous vous écoutons, allez-y.
Moi je pense que la meilleure des solutions, c'est d'abord mettre fin à la pauvreté. Si cette population arrive à agir ainsi, c'est parce que la pauvreté est toujours permanente. Comment on peut songer à interdire l'accès dans toutes nos forêts là, si on n'a pas encore résolu la question de la pauvreté? Moi je pense que ça ne peut pas se tenir debout. Il faut d'abord penser à mettre fin une fois pour toutes à la pauvreté. L'employabilité des jeunes fait défaut toujours. On est entré tout. Il y a les jeunes qui finissent, des millions et des millions, qui défendent des mémoires, des thèses, mais malheureusement, il n'y a pas d'emploi. Et encore, chercher à interdire la population, moi je pense que c'est nous exposer encore davantage.
Merci beaucoup, monsieur Charles. Charles, nous rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Nous restons dans la même région, dans la même zone, pour donner la parole à monsieur Justin. Il est à Fungurume. Bonjour.
Bonjour, monsieur Tati Mapoukou. J'ai failli aussi commettre l'erreur de notre invité qui est aussi qui a dit.
Allez-y, monsieur Justin.
Ok, moi je me localise avec mon intervention dans la province du Haut-Lomami, dans le territoire de Bukama, là où il y a une grande partie de la population qui vit au bord de la rivière, ce sont des rivières, hein, et une partie dans les Kapamaï, en commençant par Luena, Kapamaï, Kilomboï, Kazaza, Kalomba, ainsi de suite. Donc ces gens vivent cochant des surbrûlures. Il n'y a pas des intrants. j'avais eu de oui dire en disant que le ministre avait interdit d'utiliser les intrants puisque ça dégrade les sols. Alors, pour avoir les intrants, c'est défricher les forêts partout là-bas. Alors, et que les forêts restent le premier bailleur de nos gens qui sont de l'autre côté là de Kayeye, en coupant les braises, pour préparer, il faut avoir les braises, soit avoir les bois. Et pour avoir des maïs, il faut défricher les forêts. Comment ces gens, l'État va se retrouver à les interdire à faire à couper les bois? C'est pratiquement impossible. S'il veut réussir, il faut qu'il préconise des moyens, de trouver des solutions à part déboiser et à part préparer la cuisson avec des braises, qu'il trouve autre moyen pour bypasser cette situation. Je vous dis, on a essayé de nous réorganiser à l'Ouena avec l'ONG Mutufuate, avec le génie, l'agronome de formation Albert Kabinga, vieux Onésime et Papa Rex. Et on était assisté par un agent de la GECAMINE, le chef de la GECAMINE de l'Ouena. On s'est réorganisé avec l'ONG Mutufuate. Donc l'ONG connaît le reboisement. Donner un peu quelques valeurs à ces gens pour que les gens tournent les dos aux forêts. Juste là, monsieur Tati, nous n'avons pas encore trouvé de solution. On a écrit partout. Notre invité qui est au studio, qu'est-ce qu'il va aider à l'ONG Mutufuate? Pas tout le monde, l'ONG Mutufuate à l'Ouena, pour que cette ONG soit subventionnée ou soit assistée pour réussir ces étapes de reboisement. Deuxièmement, quelles sont les méthodes alternatives qu'il va trouver pour interdire les gens de mon coin à ne pas couper les bois et à ne pas utiliser les intrants? Notre invité qui est au studio va nous donner, je dis et je vous remercie, monsieur Tati.
Merci beaucoup, Justin. Je rappelle que c'est depuis Fungurume, dans les Haut-Lomami, que vous intervenez. Nous appelons également aux organisations paysannes qui se trouvent du côté de la forêt de Mayombe d'appeler, de témoigner sur les pratiques agricoles qui sont faites là-bas et est-ce qu'il y a des rendements. N'hésitez pas à nous appeler au numéro 081-890-6094 par SMS. Envoyez-nous vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Ingénieur Michel, comment répondez-vous à la question de Charles Kisimba Lumbashi?
Ok, merci pour la parole, monsieur Tati Mapoukou. Je pense que je n'ai pas commis l'erreur.
Non, alors, pas du tout. Commençant
par l'agroforesterie. Je pense que actuellement, c'est un système prometteur, pour résoudre le problème de l'agriculture sur l'île.
Okay.
Mais j'avais dit que ça doit aller progressivement. Parce que quelqu'un qui est déjà habitué à faire, à pratiquer l'agriculture sur l'île, on ne peut pas directement l'interdire.
Oui, il a hérité de cette pratique de ses arrière-parents.
Effectivement. Ouais. Mais on peut commencer maintenant à l'entraîner vers peut-être une autre activité plus durable, telle que l'agroforesterie. Alors, comment s'y prendre? Il faut d'abord distinguer les critères, lorsqu'on parle de l'agroforesterie, donc on ne peut pas orienter l'agroforesterie n'importe comment. Il y a aussi des critères pour le choix des systèmes à mettre en place. Parlons d'abord des critères selon la structure des composantes.
D'accord.
J'ai parlé d'abord des trois composantes principales, les lignées pérennes, les cultures.
Oui, mais quand vous parlez des lignées pérennes, c'est quel type de...
En fait, Les agronomes parlent de cultures pérennes, des cultures qui peuvent dépasser plus d'une année. La floraison peut dépasser
dans une année,
donc plus d'une année.
Okay.
Voilà.
Les arbres fruitiers, par exemple.
Okay. Même les palmiers à huile aussi, les bambous aussi, ça peut aller au-delà aussi, parce qu'on parle des lignes pérennes. Donc voilà, ligne qui est la matière principale.
Okay.
Alors, maintenant, lorsqu'on voit les trois composantes. J'ai parlé des liens pérennes, comme je viens de le dire. Les arbres aussi sont inclus dans les liens pérennes. Les arbustes aussi et autres aussi. Alors maintenant, il y a les cultures. Lorsqu'on fait cette association des liens pérennes avec les cultures annuelles, c'est là où on parle de la glycéviculture. Donc il y a les cultures qui sont associées avec les liens communs pérennes. Et dans l'agroforesterie, les liens pérennes sont obligatoires. Sinon, il n'y a pas d'agroforesterie.
Et est-ce que dans l'agroforesterie, une fois le système mis en place, l'agriculture surbrûlée n'a plus d'importance pour le paysan?
Comme je dis, ça va aller progressivement. Mm. Comment? Lorsque vous plantez maintenant ces arbres,
oui.
Vous plantez ces arbres, l'arbre peut produire des fruits, l'arbre peut produire aussi du bois,
mm.
Et l'arbre peut attirer aussi les chenilles.
Oui, les feuilles qui tombent, qui se décomposent, enrichissent aussi les sols.
Les sols.
Exactement.
L'arbre peut permettre aussi, hein, donc, comment dirais-je, l'adaptation au fait, l'arbre peut permettre. Donc, peut stocker les COD et pour s'adapter maintenant au changement climatique aussi. Vous voyez, il y a plusieurs avantages lorsque vous plantez les arbres. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'arbre qui est obligatoire ou encore des liens pérennes qui sont obligatoires dans les systèmes comme agroforesterie. Et lorsqu'il n'y a pas de liens pérennes, on ne parle pas de l'agroforesterie. Mm. Et il n'y a pas seulement l'association de l'arbre avec d'autres cultures. Et on peut s'associer l'arbre avec les animaux. Et c'est là qu'on parle de sylvopastoralisme. On peut aussi associer l'arbre ou encore les liens pérennes avec les deux là.
Mm.
On parle de l'agri-sylvopastoralisme.
Mm.
Alors, maintenant, les gens voient l'agroforesterie seulement et comparent l'agroforesterie comme l'agriculture. Non, parce que l'agroforesterie, on peut pratiquer l'agroforesterie sans mettre en œuvre les cultures. Les gens peuvent pratiquer, par exemple, ce qu'on appelle l'apiforesterie, l'apiculture, dans ces milieux communs, parsemé d'arbres. Lorsqu'on n'a pas assez de moyens, on peut pratiquer cela, mais on peut aussi faire les zonages du terrain et mettre du bois, les arbres qui seront utilisés pour la production du bois, pour la cuisson, ou encore pour la vente.
Oui, professeur, mais est-ce qu'il y a qui c'est Charles de Lubumbashi qui a dit il faut lutter contre la pauvreté pour réduire ces mauvaises pratiques agricoles. Pensez-vous que l'agroforesterie peut aider à lutter contre la pauvreté dans ces milieux?
Effectivement, c'est ce que je viens de dire. Donc, l'agroforesterie, d'abord, est une pratique qui est destinée même aux gens qui sont pauvres. On peut commencer. C'est question seulement d'avoir la grande contrainte. La grande contrainte, ce n'est pas avoir, par exemple, les terres.
De l'espace. Oui.
De l'espace. Mm. Si vous avez, par exemple, une portion de terre, vous pouvez ou ne pas faire les cultures, mais vous pouvez faire, comme j'ai dit, je reviens sur l'apiforesterie, l'apiculture. Ça peut vous engendrer beaucoup de moyens financiers. Parce que lorsque vous avez une ruche, ça peut vous produire deux fois l'an.
Mm-hmm.
Et une ruche peut produire 20 litres.
Okay.
Avec 20 litres, si vous vendez ça même à 4 dollars, le prix minimum, vous avez 80 dollars. Fois 2, vous avez 100. Combien fois 2, c'est 160 dollars pour une ruche par an.
Oui.
Alors maintenant, si vous avez autant de ruches, parce que lorsque vous installez seulement les ruches, les abeilles peuvent quitter plus loin pour venir maintenant
polliniser
le milieu là.
Oui, oui.
Alors maintenant, lorsque vous avez pour amener les gains de pollen et puis produire là du nectar ou encore les miels.
Mm.
Alors, lorsque vous avez l'appui foresterie, ça peut vous donner déjà beaucoup d'argent.
Oui.
Et à part ça, on peut aussi pratiquer les cultures des arbres fruitiers.
Mm.
Avec les arbres fruitiers, beaucoup de gens disent que ça prend beaucoup de temps, mais il y a plusieurs manières d'écourter le temps pour la production.
Oui, ingénieur, vous avez mené vos recherches dans la région. Là, est-ce qu'il y a des ménages qui se lancent dans cette pratique d'agroforesterie dans la forêt de Mayombe?
Il y a beaucoup de ménages qui pratiquent l'agroforesterie. Mais sauf que, après notre étude, nous avons remarqué que le système n'est pas comment durable. Parce que lorsqu'on parle de la durabilité, on voit les trois aspects, le social, l'environnement et puis l'économie.
Mm.
C'est vrai, hein? Donc les gens qui pratiquent l'agroforesterie, ils trouvent leur compte. Donc sur le plan économique, l'activité est comment rentable. Mais l'activité est donc rentable et puis ça permet aussi de séquestrer parfois les carbones, tout ça. Mais les grands problèmes, les trois aspects de la mise ensemble ne sont pas comment
réunis.
Et voilà pourquoi.
Donc, il y a la dimension économique qui est plus ou moins réunie.
Oui, plus ou moins réunie. Même la dimension aussi écologique aussi. Hein.
Oui.
Mais la dimension sociale n'est pas encore résolue.
Mais qu'est-ce qui fait que cette dimension ne soit pas prise en compte à 100%.
Voilà pourquoi il faut la sensibilisation des populations pour les montrer. Parce que les gens se contentent seulement de ce qu'ils ont. Mm. Mais ils voient seulement peut-être en plantant telle ou telle espèce, ils voient seulement les bénéfices. Mm. Mais est-ce que ces bénéfices-là parviennent à résoudre les problèmes sociaux? Non, c'est ce que nous avons remarqué. Donc maintenant, il faut les encadrer pour leur montrer comment peut-être faire un bon zonage,
oui, une bonne exploitation. Là, on est dans la dimension agroéconomie.
Effectivement. Oui. Donc on peut avoir un espace de 3 hectares. Mm. Mais les gens ne savent pas exploiter l'espace.
Oui.
Et donc il y a un problème encore de la répartition des cultures, hein, ou encore des spéculations dans cet espace-là.
Oui, professeur Michel, je reviens à vous. Hein. Il y a d'autres auditeurs qui attendent, donc nous leur donnons la parole et puis nous retournons aussi au studio. Qu'est-ce faut-il faire pour régénérer la forêt de Mayombe? Nous en parlons dans cette deuxième partie d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94. Par SMS, nous attendons vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans le courriel dénommé service@radiokapi.net.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Jean-Claude, vous êtes à Kindu, bonjour.
Oui, bonjour Tati, bonjour à l'invité et bienvenue à Kindu au Maniema.
Oui, nous tablons sur comment régénérer la forêt de Mayombe. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette thématique?
Oui, moi je pense que loin d'être contredit par l'invité, l'alternative la plus adaptable c'est l'agroforesterie. Parce que dans l'agroforesterie, on peut régénérer la forêt par les moyens économiques, sur les moyens sociaux et sur les moyens même culturels. Imaginez-vous, moi je vais vous faire un exemple ici chez nous au Maniema. Nous avons par exemple la chefferie de Bakwang. Mm. C'est une chefferie à 90% une chefferie savanicole. Donc, c'est au moins un quart de forêt. Mm. Et là, nous avons des forêts de galeries. Mais malheureusement, cette forêt de galeries est attaquée par les gens qui font les étangs piscicoles, les chats, qui cultivent les pavis et tout ça. Et donc, moi, je pense que si ces gens se focalisent dans l'agroforesterie, dans ces savanes, il y a moyen de pouvoir régénérer cette forêt par les arbres, par exemple, fruitiers. Et quand on voit ces arbres fruitiers, on peut régénérer l'économie de la province et du secteur de ce secteur-là de Bakwang et de
Tassim. Oui, mais est-ce que les communautés aussi paysannes pratiquent l'agriculture sur brûlis à chaque saison culturelle?
Tout à fait, tout à fait. Voilà pourquoi il y a oublié de faire cette sensibilisation dans ce sens, pour peut-être informer les gens sur l'agroforesterie. Parce que, vous savez, l'ignorance bâtit. Et quand ces gens ne sont pas informés, on va du péril à la demeure. Et donc, c'est déjà un danger. Dans 15 ans, moi, je pense que la situation sera beaucoup plus chaotique. D'où, il faudra informer cette population pour qu'ils puissent pratiquer au moins l'agroforesterie, Tati.
Merci beaucoup, Jean-Claude. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kindu, au Maniema, que vous avez pris la parole. Hein. Merci beaucoup. Bonne journée à Kindu. Cette fois-ci, allons au Kasaï Central, hein, pour donner la parole à Kachai. Bonjour.
Bonjour Monsieur Tati Mapoukou et bonjour à l'invité de la radio Okapi.
À vous la parole, allez-y, on vous écoute, merci.
Oui, oui, merci beaucoup Monsieur Tati. Je n'ai pas beaucoup à demander à l'invité. Je voulais un peu qu'il puisse nous préciser s'il s'inscrit en faux contre la culture par brûlure pratiquée par les communautés locales. Mm. Alors, il propose quoi? Hein? Il propose quoi pour permettre aux communautés locales quand même de survivre? Parce que c'est souvent lorsque pendant certaines saisons, les communautés locales font des champs et ils brûlent ces champs-là pour fertiliser les sols. Parce qu'ils disent que la cendre fertilise les sols. Mm. Maintenant, lui ne veut pas que les champs soient brûlés par les communautés locales pendant les saisons
agricole.
Agricole. Alors, il propose quoi en lieu et place?
Oui, mais dites-moi d'abord, Kachai, dites-moi d'abord, est-ce qu'au niveau des Kanyoka, les paysans recourent à cette pratique régulièrement?
C'est ce que nous nous faisons ici, M. Tati. Moi-même, je suis l'agriculteur. Je vis de l'agriculture. Et quand on fait déjà des champs, on attend que le champ soit séché par le soleil. Et après ça, et puis après, nous allons brûler le champ. On brûle, après la brûlure, on passe à la période des semailles et on commence à semer les semences. Alors, c'est pourquoi lui ne veut pas que nous puissions semer. Or, si elle ne veut pas que nous puissions brûler. Or, si vous ne brûlez pas, si vous ne brûlez pas, il n'y aura pas une bonne récolte. Le sol ne sera pas fertile.
Oui, mais s'il vous plaît, Kachaye, il y a une idée qui me traverse l'esprit. Dites-moi, là où vous avez brûlé la terre pour fertiliser le sol, il faut utiliser ces lopins de terre pour la culture. Est-ce que vous revenez au même endroit à la prochaine saison agricole ou vous changez de lieu?
Non. Il y a ce que nous appelons mettre le sol en jachère ou soit en isolement. Le mettre en jachère, c'est-à-dire, vous avez déjà cultivé, alors une année après, vous ne revenez pas sur le même sol-là. Alors, ça, c'est mettre le sol en jachère pour le permettre de se fertiliser de lui-même.
À nouveau, ok, naturellement.
Vous laissez un temps. Ouais. Maintenant, l'isolement, c'est à tout moment, par exemple, par rapport à la culture des arachides. Mmh. Monsieur Tati, nous pouvons revenir sur le même sol chaque année. Mais c'est là, en faisant en sorte que l'on puisse mettre même le feuillage, les feuilles mortes des arbres, nous allons mettre dans le champ là, pour que l'année prochaine, nous puissions revenir encore. Maintenant, un autre aspect que je voulais soulever, c'est par rapport à la coopération entre la RDC et d'autres pays. Mmh. Parce que vous avez dit ici que à Mayombi, c'est ici chez nous, ça prend aussi 4 pays. Maintenant, qu'est-ce que fait l'État congolais avec les autres pays là pour que, en coopérant ensemble, que les communautés locales ne puissent pas détruire la forêt? Cela implique le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement. Est-ce qu'il y a une politique allant dans ce sens-là, menée par les deux ministères auprès d'autres pays pour que l'on puisse arrêter des stratégies pouvant permettre aux communautés locales de vivre aisément? Parce que, M. Tati, la vie n'est pas au centre-ville. Oui, c'est vrai qu'au centre-ville, il y a la vie, mais nous tous, nous n'allons pas aller au centre-ville pour vivre.
Non,
nous
pas du tout.
Aussi, oui, nous devons transformer le milieu dans lequel nous vivons.
Exactement.
Là où nous vivons, nous pouvons créer les conditions de vie. Mais s'il n'y a pas de bonne stratégie accompagnée par ceux qui nous dirigent, parce que vous savez, si vous-même vous faites quelque chose et que derrière vous, il n'y a pas quelqu'un qui vous appuie, il n'y a pas quelqu'un qui vous donne le ton, il n'y a pas quelqu'un qui vous oriente, parfois, vous allez vous fatiguer. Alors, l'État congolais à son niveau, qui a appelé à donner le ton à tous les secteurs de la vie, quelle stratégie a-t-il mise en place? Là, je parle des ministères de l'Agriculture et Environnement, pour que les communautés locales soient encouragées, qu'ils ne puissent pas faire l'exode rural. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Kachaï. Mais je tiens à souligner que professeur Michel Mbumba, il est venu en tant que spécialiste, il ne représente pas les décideurs. Donc, s'il aura un mot à émettre par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Retournons cette fois-ci à Kinshasa pour donner la parole à Gaston. Maître Gaston, bonjour.
Marcel, j'ai dit, Tati.
Oui.
Bon, je dirais que, vous savez, si les originaires de chaque coin utilisaient leurs espaces pour les besoins que nous connaissons de survie, il n'y aura pas vraiment un problème par rapport à l'utilisation des forêts. Parce que, vous savez, il y a depuis la nuit des temps une pratique là qui s'est installée où les originaires là cultivaient dans des endroits bien connus. Et après, ces espaces-là, ce n'était pas facile, mais il y a beaucoup d'espaces vierges que normalement on doit être exploité. Mais vous savez, il y a certains endroits où on trouve la confusion dans les chefs des gens qui vivent là-bas. Il y a ce qu'on appelle les exodes dans tous les coins aujourd'hui, même dans les villages, où des originaires d'autres provinces, d'autres coins arrivent dans des endroits où il y avait des forêts et ils exploitent ces forêts-là parce qu'ils doivent survivre. On vit de manière régulière ces abattages-là, ces forêts qui disparaissent. Moi, je pense que la meilleure manière de garder ces forêts, c'est de laisser ces forêts-là à l'exploitation des originaires, des autochtones, si je peux dire aussi des communautés locales. C'est ce qu'on dit, parce que nous avons besoin de Bango, par rapport à l'ancêtre de Bango, parce que nous avons besoin de Bango. Ces gens-là exploitent d'abord de manière. Et puis, tout ce monde qui rentre là-bas, pour l'exploitation d'une manière ou d'une autre, puisse payer une redevance qui fera que. Et puis, qui est aussi un contrôle par rapport à l'exploitation de la coupage des arbres, parce que les gens en font aujourd'hui des crimes, ils en font des braises, il y a beaucoup de choses qu'on fait avec il y a même des fumois, des trucs comme ça, qui dans nos coins là qui étaient non exploités, mais aujourd'hui il y a des véhicules, des gens qui vous entrent là-bas dans des forêts, couper des fumois là que nous on connaissait, j'ai dit souvent, mais ça fait aussi détruire la forêt. C'est pour ça que j'ai dit, pour vraiment, il faut que les autochtones, les 100%, les originaires, pas les 100% en soi, mais les originaires puissent exploiter de manière rationnelle leurs endroits, par rapport aux machines, de la place qu'on a bango, ça c'est ça qu'ils peuvent créer dans la forêt, pour cultiver leurs champs, des trucs comme ça, il y a des étangs, des trucs comme ça, et les forêts seraient. On ne peut pas aussi laisser des arbres qui pourrissent comme ça, parce que par exemple dans mon coin là-bas, vers les beaux là-bas, je vous dis qu'il y a des forêts, mon cher, où moi je me demande si c'est parce que moi je me dis propriétaire de ces forêts-là, je me dis s'il y avait seulement des gens qui pouvaient entrer dans ces forêts, couper des arbres qui pourrissent, des grands arbres, qu'on pouvait faire des planches, comme ça, mais ces arbres-là pourrissent là-bas, ou soit ça tombe, ou soit ça est même vivant. Mais ces forêts-là contribuent aujourd'hui à alimenter le monde avec
l'hydrogène,
l'oxygène, les trucs, je ne sais pas. Donc c'est un peu dans ce sens, dans les miroirs, comme quand on fait ces allusions, maillot, monsieur, comme ça, ce sont des miroirs qui aujourd'hui vivent des migrations, des gens qui rentrent dans ces forêts-là et l'exploitent de manière abusive. Il faut voir comment ces gens-là pouvaient donner une redevance pour que, ou soit laisser le temps, on exploite ici et puis. Un peu ce qui se passe dans l'époque, Congo, exploiter 2 ans, vous laissez 2 ans, 4 ans, on exploite plus dans cet endroit et puis aller mollo. Si on voit que ça existe, l'endroit est épuisé, on interdit carrément pendant 5 ans, 15 ans, parce que c'est l'État qui est le propriétaire des sols et du sol.
Merci beaucoup, Gaston. Je rappelle que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Ouais. Vous avez souhaité que ces terres soient utilisées uniquement aux populations autochtones, hein, parce qu'ils savent comment utiliser rationnellement et durablement leurs forêts. Malheureusement, il y a des gens qui quittent Kinshasa et les grandes villes pour aller faire la pression sur les ressources dans ces milieux. Professeur Michel, comment répondez-vous à Jean-Claude, hein, de Kindu, qui a dit qu'il faut encourager l'agroforesterie parce que il a vécu dans un village au Maniema où l'on pratique où l'on recourt à l'agroforesterie et il voit que ces communautés la vivent mieux.
L'agroforesterie, comme j'ai dit, en fait, vous plantez des arbres et les arbres ne sont pas seulement les arbres fruitiers et même les arbres non fruitiers. Alors aujourd'hui, la tendance est d'amener aux gens aux arbres non fruitiers. Les gens parlent beaucoup plus de la déforestation ou encore des plantations des arbres. Mais ils ne disent pas clairement quel type d'arbre il faut planter. Et voilà pourquoi les gens pensent que l'agroforesterie vient déranger les gens. Puisque on ne sent pas les bénéfices directs. Mais pourtant, comme j'ai dit tantôt, on n'a pas interdit l'agriculture itinérante sur Billy. Mais nous pouvons migrer vers un système plus durable, progressivement.
Oui, mais quel est ce système? C'est Kachaï de Gagnon qui a demandé.
Effectivement, donc nous sommes dans l'agriculture, comment l'agroforesterie. Et l'agroforesterie, quand c'est bien pratiqué, vous allez voir que tout le monde va se retrouver. Puisque même les bois que les paysans vont s'extraire à la forêt, il va lui-même commencer maintenant à le produire dans la ferme.
Oui.
Et comme j'ai dit, il faut toujours être assisté des technocrates ou encore des techniciens pour bien faire l'agroforesterie. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez orienter l'agroforesterie dans la production des liens pérennes, c'est vous. Si vous voulez, par exemple, pratiquer ce qu'on appelle l'écriture en couloir, hein, donc vous plantez les cultures annuelles, mais tout en mettant sur les arbres qui vont croître. Mais ces arbres-là ne vont pas croître indéfiniment. Mmh. Hein, c'est où vous allez commencer maintenant à les laguer pour fertiliser maintenant le milieu. Oui. Ça, c'est un peu le...
Et quand vous élaguez, vous en faites le charbon de bois, ça vous rapporte de l'argent.
Non, non, pas encore donc pour l'écriture en couloir. C'est juste pour fertiliser le milieu.
Ah,
mais on peut aussi faire ce qu'on appelle l'écriture intercalaire. Parce que l'écriture en couloir, c'est une variante aussi d'écriture intercalaire. Donc, c'est comme j'ai parlé des zonages. Vous savez comment orienter... en fait, au nord, on peut mettre peut-être les arbres qui seront coupés pour les charbons de bois. Mmh. Et maintenant, au milieu, on peut mettre les cultures annuelles en association même avec les systèmes là, de culture en couloir. Mais, et puis, on peut mettre plusieurs arbres sans pour autant déranger les cultures qui sont mises en place. Comment ? Vous regardez maintenant le mouvement du soleil. Donc, le soleil se déplace de l'est vers l'ouest. Alors, on oriente de telle sorte que toutes les plantes annuelles puissent bénéficier maintenant du soleil. Il n'y aura pas concurrence entre les arbres plantés et puis les cultures qui vont maintenant croître sans difficulté. Alors, comme j'ai dit, l'agroforesterie aujourd'hui, c'est question de sensibiliser les gens. Il y a des gens, par exemple, au Mayombe, qui sont déjà habitués avec l'agroforesterie. Et j'ai tout dit que, même ceux-là qui nous disent qu'ils ne font pas l'agroforesterie, parfois ils le font aussi sans le savoir.
Oui.
Comment ? Même dans nos maisons,
ils ont le bétail, ils ont...
Voilà, ce qu'on appelle les jardins de cases.
Oui.
Jardins familiaux ou jardins de cases. Vous voyez, quelqu'un avec un arbre ou encore deux arbres dans sa parcelle, il y a un peu...
Un cheptel.
Un cheptel. Il y a aussi les cultures, peut-être bon, c'est pas des légumes, hein.
Oui.
Donc, tout ça, ça forme l'agroforesterie.
Petite échelle.
À petite échelle, hein. Ouais. Mais non, les gens qui le font aussi savent que ça produit beaucoup. Les arbres fruitiers, là, comme je dis, il y a moyen de courter la production de ces arbres avec ce qu'on appelle le marcottage, par exemple, aérien. Donc, vous produisez les marcottes. Et en moins de 2 ans, vous avez des fruits. Vous voyez? Donc, même les palmiers nés aussi, hein. Donc, à moins, c'est pas de 2 ans, vous avez aussi des fruits. C'est question maintenant de faire les choix. Alors, comme je disais, les gens ont toujours cette tendance de voir que lorsqu'il y a production de fruits, ça prend beaucoup de temps, 4 ans. Mais il faut demander conseil aux gens qui connaissent ceux qui sont agroforestiers. Et l'agroforesterie, aujourd'hui, nous avons beaucoup de savanes. Des savanes qui sont abandonnées. Et les gens, peut-être attendre seulement la régénération naturelle pour venir couper les arbustes. Mais on peut l'exploiter avec l'agroforesterie. Et aujourd'hui, avec l'agroforesterie, ça peut même attirer aussi les bétails ou encore les animaux, tels que les chenilles. Hein, les chenilles, on peut planter des arbres hautes à chenilles pour attirer maintenant ces espèces-là. Donc avec l'agroforesterie, il y a beaucoup d'avantages. Ça a été démontré. Mais comme j'ai dit, il faut aller progressivement, surtout les premiers, j'ai parlé beaucoup plus de zonage. Hein. Comment répartir les spéculations dans un même espace. Parce que l'agroforesterie, c'est faire soit donc 2 spéculations ou 3 sur un même espace sans se déplacer. Et voilà pourquoi on parle de sédentarisation des gens qui le font, des ménages. Aujourd'hui, vous allez voir que on n'a plus commencé à quitter. La personne qui m'a posé la question, il se déplace à tout moment. Mais combien d'espace il va commencer à détruire, hein?
Oui, avec les canyoka.
Oui, oui. Ouais. Mais or, s'il restait seulement à un seul milieu, ça va permettre que nos forêts puissent se rester. Et puis montrer aux gens les bénéfices que ces gens peuvent tirer sur des forêts.
Oui.
La présence des forêts.
Oui, professeur Michel, vous n'êtes pas un officiel, vous êtes un spécialiste, un expert en agroforesterie. Il y a l'auditeur Kachaï, oui, de Kanyoka, qui a voulu savoir en fait s'il y a un programme gouvernemental qui couvre tous les 4 pays de la région. Bon, vous n'êtes pas une voix officielle, mais est-ce que c'est important parce que la forêt de Mayombe est vraiment exposée à la prédation? Pensez-vous que c'est vraiment important de développer un projet qui va couvrir la forêt de Mayombe pour essayer un peu de régénérer la forêt là qui est vraiment la pratique des feuilles de brousse, l'agriculture surbrûlée, les déboisements affectent la forêt là.
En fait, il y a plusieurs projets qui ont été mis en place ou implantés dans la zone forestière de Mayombe. Il y a la REPLUS qui a été implantée.
Le projet, il est encore en cours, je pense.
Oui.
Il est encore en cours.
Oui. Oui. Et vous voyez que les gens pratiquent l'agroforesterie. Alors, en fait, s'ils ne sentent pas ça, ça c'est mon point de vue, hein. S'ils ne sentent pas les bénéfices, c'est parce que la plupart, il y a quelqu'un même qui a parlé des autochtones. Hein.
Oui. Mais, il faut laisser ces espaces aux autochtones, oui.
Bon, je ne sais pas que j'appuie son idée, hein. Parce que les mêmes communautés vendent aussi les terres, hein, aux étrangers. Vous voyez ça? Les mêmes communautés locales. Alors, mais ce qui fait un peu mal, hein, parce qu'on voit certains non-autochtones qui ont plus d'espace que les autochtones. Vous voyez ça? Et ils ne font rien là-bas. Ils ont acheté des espaces, peut-être pour transformer ça à une autre forme d'utilisation des terres, hein. Peut-être que mettre des maisons, tout ça. Alors, oui, on laisse seulement les terrains sans les exploiter, et ça c'est condamnable. Mais je pense que c'est pas l'effet seulement de vous débarrasser des étrangers ou encore des allochtones que vous allez mieux gérer. Mais c'est question de savoir comment gérer, hein. Et je reviens sur l'agroforesterie qui est une pratique comment durable, qui est vraiment une pratique. Ça a été démontré dans beaucoup de pays. Mais c'est question d'aller progressivement montrer à ces gens-là. Et aujourd'hui, si quelqu'un le fait et trouve que ça commence à produire, ça donne des bénéfices, je pense qu'il n'ira plus vers la forêt. Il va rester dans son milieu. Et c'est ce que les gens... Si j'ai remarqué aussi au niveau du Congo central, il y a des gens qui sont demeurés. Hein, donc,
ils sont devenus sédentaires.
Oui, ouais. Sédentaires. Hein, ils sont dans le milieu.
Au plateau de Bateke aussi, à Mampou par exemple.
Ils sont là. Et ils ont dit que non. Et tellement ils ont des bénéfices, hein, qu'ils sont sensibles. Et ils ne vont plus vers
les grandes villes.
Les grandes villes, hein.
Oui, oui.
Alors, mais comme je disais, le problème, c'est question de voir. Hein, parce que lorsqu'on parle de la durabilité. Il faut tenir compte aussi votre apport aussi dans la société. Vous voyez seulement, hein, bon, vous produisez vos besoins
de base sont
satisfaits, mais les autres besoins ne sont pas comment satisfaits. Donc il faut voir dans tout, dans tous ces trois aspects. Hein.
Oui, je vais revenir à vous, professeur Michel. Le temps de retourner au standard, hein, donner la parole à un auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kikwit. Monsieur Godet, bonjour.
C'est le journaliste. Bonjour à l'invité.
Oui,
oui, vraiment, l'émission est très impertinente. Ici, donc, dans la province du Kwilu, est-ce que la forêt, on peut déboiser, donc, est-ce qu'on peut trouver, on peut faire, donc, une forêt, donc, de déboisement dans un désert? Est-ce que ça peut adapter dans un désert, par exemple, une grande brousse? Ça peut adapter, d'aider. Quelle différence y a-t-il entre forêt ancestrale et forêt déboisée? L'invité peut nous dire. Quand je plante, par exemple, les oranges dans ma parcelle, là, je fais quand même les forêts vierges ou les forêts boisées. Mais les oranges, les sapotiers, tout consort dans ma parcelle. Est-ce que après combien des années, cette forêt-là ou cette savane-là peut devenir une forêt vierge? L'invité peut nous répondre.
Oui, Monsieur Godet, vous avez presque mélangé les questions forêt, savane. Bon, j'espère que le professeur Michel va essayer de mettre un peu de l'ordre, hein, dans les questions que vous avez à poser. Comment répondez-vous à la préoccupation de Monsieur Godet? Nous savons que Kikwit aussi, hein, les forêts à l'ambo de Kikwit sont vraiment exposées à la prédation parce que la ville s'agrandit, la demande en ressources forestières augmente et c'est un problème aussi dans la ville de Kikwit. Allez-y.
Alors, il faut regarder cette chose. Hein. Bon, on parle pas de désert chez nous ici. Hein. C'est les savanes. Alors, il faut distinguer aussi les forêts primaires, hein, les forêts comme secondaires ou encore les forêts naturelles, des forêts artificielles. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'agroforesterie, c'est vraiment pour la régénération des forêts comme artificielles. Donc, on peut planter. Hein. Donc, il y a l'apport de l'homme. Hein. Donc l'homme intervient. Mais nous parlons pas des forêts naturelles qu'on doit protéger. Mais nous parlons de comment maintenant éviter que les gens puissent aller maintenant détruire les forêts comment naturelles.
Ouais.
Alors voilà pourquoi nous parlons des alternatives.
Ouais.
Et l'une des alternatives, c'est l'agroforesterie. Mais il n'y a pas que l'agroforesterie. Les gens peuvent pratiquer aussi ce qu'on appelle l'agriculture durable.
Oui, c'est quoi l'agriculture durable?
L'agriculture durable, au fait, va presque dans le même sens que l'agroforesterie du fait que on utilise les principes du développement commun durable. Mmh. Mais dans l'agriculture durable, on n'est pas obligé de planter des arbres. Vous voyez, on n'est pas obligé. On peut pratiquer seulement les cultures tout en enfouissant la matière organique et tout en évitant l'utilisation des engrais chimiques. Vous voyez ça. On peut pratiquer de ce qu'on appelle l'agriculture commun durable. Donc on peut réduire même, si vous voulez, l'utilisation des engrais, pour ne pas parler de l'agriculture biologique. Hein. Mm-hmm. Parce que l'agriculture durable n'est pas forcément une agriculture commun biologique. Mais on peut réduire. Donc lorsqu'on parle de la durabilité, on voit les trois aspects. Hein. Le social, l'économie et puis l'environnement. Donc on peut réduire aussi, parce que la FAO aujourd'hui autorise l'utilisation des engrais chimiques, mais à petite dose.
À quantité réduite.
Ouais. Vous voyez ça. Ouais. Alors, on peut voir ça dans ce sens-là. Alors, comme je disais, les gens pensent que lorsque on pratique l'agroforesterie, c'est comme si on leur amène une science qui n'a jamais existé chez eux. Et pourtant, l'agroforesterie date de très longtemps, depuis même l'époque antique, depuis la Bible. La Bible en parle même. La Bible parle de l'agroforesterie en Genèse 1 et 2. Lorsqu'on parle du jardin d'Éden, c'est l'agroforesterie. Et il n'y avait pas de problème. Alors aujourd'hui, que les gens ne pensent pas qu'on leur impose un nouveau mode de vie. Non. L'agroforesterie, c'est une pratique ancienne, mais une nouvelle science.
Oui, professeur Michel, il y a un internaute qui a écrit, qui a dit, les problèmes aussi résident dans le non-respect de ce qui stipule les codes forestiers concernant toutes nos forêts.
Effectivement, lorsqu'on parle de la gestion des forêts, et je crois que le code forestier a été clair pour parler, comment gérer durablement les forêts. Mmh. Mais lorsque nous parlons de ne pas on dit pas de ne pas exploiter. Hein. Les gens pensent que lorsqu'on l'on parle de la gestion durable, on interdit aux gens d'exploiter. Non, les gens peuvent exploiter.
Rationnellement.
Oui. C'est ça. Et je parle de durablement. Donc, dans le sens que la population qui vit aussi dans ces milieux puisse en bénéficier aussi.
Exactement.
Et à travers les taxes. Oui. Hein, avec les taxes, tout ça, puisse en bénéficier. Et aujourd'hui aussi, les exploitants forestiers peuvent aussi, donc je pense que lorsqu'ils font leur plan d'aménagement, on les dit aussi d'inclure aussi, de voir aussi les besoins des populations communes locales. Ils font aussi de résoudre. Mais peut-être que ce qui pose problème chez nous, c'est l'application des lois. Mm. Voilà pourquoi l'État doit veiller sur l'application des lois. Parce qu'on voit quelqu'un à qui on donne ses privilèges d'exploiter, mais qui abuse. Or, si l'État appliquait les lois, je pense que ça peut réduire tant soit peu, c'est un problème.
Donc, pour conclure, professeur Michel, la solution durable, efficace concernant cette pratique au fait d'agriculture sur brûlis, c'est l'accompagnement dans l'agroforesterie, mais également dans l'agriculture durable. Ce sont les deux solutions majeures qu'il faut amener dans cette forêt-là qui devient de plus en plus en lambeaux. Un message à lancer aux paysans qui nous suivent à travers les pays concernant ce dont on vient de parler au cours de cette tranche.
Tout cela qui m'écoute, je pense qu'aujourd'hui, l'agroforesterie a été démontrée par plusieurs études que c'est une pratique très prometteuse qui peut être bénéfique du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue environnemental à tous les ménages qui pratiquent cette activité. Aujourd'hui, je sais que la pauvreté règne dans notre milieu, mais ça ne nous empêche pas de faire du bien à la nature. Donc voilà.
Professeur Michel Mumba, nous rappelons que vous êtes docteur en sciences agronomiques, spécialité agroforesterie. Merci d'avoir été avec nous dans Okapi Service. À la prochaine occasion.
C'est moi qui vous remercie.
C'est par ici que nous clôturons Okapi Service de cette journée que vous a présenté Tati Mapoukou sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Martial Ngombo a coordonné et réalisé ce numéro. Dieudonné Nangassa s'est occupé de la prise des sons. Le rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau rendez-vous d'Okapi Service. Excellente condition d'écoute des programmes de Radio Okapi.